الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc après la coupure du Hajj, on continue l'explication du livre شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, et une explication du Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait cité les différentes sortes de ta'wil, d'interprétation qu'il y avait, et on avait vu qu'il y en avait trois. La première et la deuxième, qui sont connues des savants de l'islam, des savants des salafs, et la troisième compréhension, ou la troisième explication du ta'wil, de l'interprétation, qui elle est fausse et est appliquée et utilisée par les gens de l'innovation. Quant à la première signification que l'on avait vue du terme ta'wil, ça signifie la première explication qu'on avait donnée, c'était at-tafsir, c'est-à-dire l'explication et montrer le sens. Et ceci est compris dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, et ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Ne connaît son interprétation, c'est-à-dire ne connaît sa signification. Et c'est une des lectures dans le Coran, c'est de lire ce verset et de s'arrêter à الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ils ne connaissent son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. C'est-à-dire qu'Allah connaît le sens, mais également ceux qui sont ancrés dans la science connaissent aussi le sens de ces versets ambigus. Non, justement, ça c'est la première explication. La deuxième, que Cheikh Fawzan a cité également, qui signifie donc la première signification de ta'wil, d'interprétation, c'est tafsir, l'explication du sens. Et la deuxième explication qu'on avait donnée, de savoir ce qu'une chose va devenir dans le futur. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, c'est-à-dire de connaître une chose, de connaître la caractéristique d'une chose qui va avoir lieu dans le futur. Jawed, c'est le quatrième dans la liste. Et ceci est compris dans la deuxième lecture de ce même verset qui préconise de s'arrêter à Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ illallah, et ne connaît son interprétation qu'Allah, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِنَا. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, ils disent, nous y croyons, كُلُّ مِنْ عِنْدِنَا رَبِّنَا, tout provient de notre Seigneur. Et c'est dans cette lecture-là qu'on comprend que le terme ta'wil peut vouloir dire aussi ce qu'une chose va devenir dans le futur. Et dans ce cas-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ta'wil. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, avait donné des exemples. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, c'est-à-dire, est-ce qu'ils n'attendent que son interprétation de quoi Allah Azza wa Jalla veut parler dans ce verset? Il veut parler du livre, du Coran, et de ce qu'il a informé comme arrivé du jour dernier. Puis Allah Azza wa Jalla dit يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُ, le jour où son interprétation arrivera. C'est-à-dire l'interprétation de quoi? Du jour dernier. Le jour où son interprétation arrivera. Qu'est-ce que signifie ici le terme ta'wil? Est-ce qu'il signifie at-tafsir? Explication? explication d'un jour, le jour où son explication arrivera, ça n'a pas grand sens. Mais il faut comprendre de cela le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose va devenir dans le futur. C'est-à-dire le jour où ils connaîtront la réalité de ce jour et de ce qu'Allah Azza wa Jalla a informé de ce qui se passera dans ce jour dernier. Yawma ya'ti ta'wil, le jour où son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation du jour dernier, arrivera, yaqulu alladhina nasuhu min qablu, diront ceux qui l'auront oublié auparavant, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, les envoyés de notre Seigneur sont venus avec nous avec la vérité, fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana, y a-t-il des intercédeurs qui peuvent intercéder en notre faveur, aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal, et à défaut de ces intercesseurs, pourrons-nous être retournés sur terre afin d'accomplir ce que nous n'avions pas accompli. Donc ici, on voit très clairement le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose devient dans le futur. Et également, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, j'ai donné un deuxième exemple pour illustrer le deuxième sens du terme ta'wil, qui veut dire ce qu'une chose devient dans le futur. Quel est ce deuxième exemple qu'il avait donné? Non? Dans Surat Yusuf, lorsque Yusuf alayhi salam s'est adressé à ses parents en leur disant وَقَالَ يَا أَبَتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا. Lorsque Yusuf alayhi salam a dit à ses parents, ô mes parents, ceci est l'interprétation de mon rêve auparavant, que j'ai fait auparavant, قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا, Allah m'a fait aujourd'hui une vérité. C'est l'interprétation, ici, comment comprendre le terme interprétation ta'wil? C'est-à-dire, c'est voici la réalité du rêve que j'ai fait, la réalité qui n'est venue que par la suite, dans le futur. Voici sa réalité. Car il s'est passé de nombreuses années entre le rêve de Yusuf alayhi salam et le jour où Allah Azza wa Jal a mis devant lui son père, sa mère et ses frères qui se sont prosternés devant lui. Et ceci explique le rêve qu'il a fait en voyant Inni ra'aytu 11 kawkaban wa ash-shamsa wa al-qamara ra'aytuhum li sajidin. Lorsqu'il a cité son rêve à son père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Les 11 étoiles sont ses 11 frères, et le soleil et la lune sont ses deux pères, ses parents, à fond. Et ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que c'est une prosternation d'adoration ou une prosternation de salut? De salut. Non, car à l'époque, il était autorisé dans la religion de se prosterner devant quelqu'un en guise de salut. Donc, le sens de ta'wil en islam, les deux sens vrais et qui ont leur explication dans le Coran sont le premier, ce qui veut dire at-tafsir, l'explication, et le second, ce qu'une chose va devenir dans le futur, l'interprétation d'une chose, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir dans le futur. Et ceci, seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. Quant au premier, Allah Azza wa Jal et ceux qui sont ancrés dans la science en ont la connaissance. Puis, Cheikh Fawzan avait expliqué « Wa hunaka ma'nan thalit li ta'wil muhdathun ahdathahu ulama'u al-kalam wa huwa sarfu al-lafd 'an zahirihi ila ma'nan akhar bi dalil yaqtarinu dhalika bi za'mihim. » Cheikh Fawzan avait dit, et il y a un troisième sens, une troisième explication du terme ta'wil qui est innové, qu'ont innové des savants de la parole qui ne sont pas des savants de science, qui signifie de dévier le sens d'un terme vers un autre sens. Et ceci avec une preuve qui, pour eux, qui vis-à-vis d'eux est une preuve. En utilisant des preuves qui ne sont des preuves que pour eux, mais qui en réalité ne sont pas des preuves. Cheikh Fawzan dit wala asla li hadha at-ta'wil fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa inna ma huwa istilahun istalahu lidhalika yu'awwiluna al-yad bil-quwwah wa yu'awwiluna al-wajha bil-dhat na'am bil-qudrah لذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بالإرادة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول والمجيء بمجيء أمره ونزول أمره وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه هذا هو التأويل المذموم وهو اصطلاح محدث. Il n'y a pas, comme le dit Fawzan, il n'y a pas de base dans ce ta'wil, dans cette troisième explication du ta'wil, qui est de dévier un sens du sens déjà connu. Il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, mais c'est un terme qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et à travers ceci, ils interprètent la main d'Allah comme étant le pouvoir, ils interprètent son visage comme étant son essence, ils interprètent sa miséricorde comme étant de vouloir combler ses serviteurs de bienfaits. Ils interprètent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la volonté de châtier. Ils interprètent la descente et la venue d'Allah azza wa jalla comme la descente de ses commandements et la venue de ses commandements. Et ainsi, ils interprètent tous les mots et ils expliquent il leur donne une explication qui est autre que celle de leur sens. C'est ceci l'interprétation à condamner, et c'est un terme innové.
أما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدلنا بالقرآن.
Quant à l'interprétation authentique et vraie, c'est ce qui est cité dans le Coran et qui sont au nombre de deux que l'on a cité précédemment. Quant aux personnes égarées qui ont une déviation dans leur cœur, ils prennent uniquement les versets à équivoque et ne les soumettent pas aux versets clairs sans équivoque, et ils prennent uniquement les ambiguïtés et délaissent les choses claires et évidentes. Et ils disent que nous nous basons sur le Coran. Puis Cheikh Fawzan donne des exemples pour illustrer l'utilisation des gens de l'innovation de versets ambigus, et ceci pour but de dévier. Fayaqul al-Khawarij, Cheikh Al-Fawzan donne le premier exemple des Khawarij. Les Khawarij disent, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Les Khawarij utilisent la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, à lui l'enfer, le feu de la Jahannam, il y restera éternellement à jamais. فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر وأنه مخلد في النار ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Que disent les Khawarij? Ils disent, dans ce verset, il y a une preuve que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est mécréant et qu'il restera éternellement en enfer. Et ils ne soumettent pas ce verset à l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il désire. Donc les Khawarij ont utilisé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, à lui, le feu de la Jahannam
éternellement à jamais. Car qui restera éternellement en enfer? Ce sont les non-musulmans. Ce sont eux qui resteront éternellement en enfer. Quant aux musulmans qui a cru en Allah et en son envoyé, s'il a désobéi Allah azawajal et a commis de grands péchés sans les avoir fait suivre de repentir, ils sont sous la volonté d'Allah. S'il veut les pardonner, il leur pardonne. S'il veut les châtier, les châtie. Donc il est possible qu'un croyant, qu'un musulman soit châtié en enfer, mais il en sortira un jour ou l'autre et il n'y restera pas éternellement. Et les khawarij, ceux qui disent que celui qui commet un péché est mécréant et il sort de l'islam, et ils apportent ce verset. Mais ce verset, donc ils apportent une chose, ils disent quelque chose et ils le prouvent. Est-ce qu'ils ramènent une preuve ou pas? Oui, ils ramènent un verset. Un verset qui, lorsqu'on le lit, peut porter à confusion. D'accord? Mais cette preuve est infondée. Car ils n'ont pris qu'une partie du Coran sans prendre en considération les autres versets. Et c'est là où arrive, ou c'est là où intervient leur erreur, et c'est là où intervient leur égarement. C'est qu'ils utilisent des versets ambigus et délaissent les versets qui sont clairs. Et dans cet exemple-là, ils ne soumettent pas le premier verset au second, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelqu'un, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. » En rassemblant ces deux versets, qu'est-ce qu'on en déduit? وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. On en déduit que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ, que celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire celui qui commet l'associé, celui qui commet l'associanisme, c'est lui qui, lorsqu'il ne se repent pas, il entrera en enfer éternellement à jamais. D'accord? Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le second verset وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ, et il pardonne toute autre chose, c'est-à-dire tout autre péché qui n'est pas associanisme, Allah Azza wa Jalla le pardonne, mais il a rajouté لِمَنْ يَشَاءَ, à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla voudra pardonner à certaines personnes et ne voudra pas pardonner à d'autres. وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Également l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: si vous vous abstenez des grandes choses qui vous ont été interdites, نكفر عنكم سيئاتكم, nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons rentrer dans une demeure bénie et saine. وكذلك ياخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ويكفرون القاتل. Également Cheikh Fawzan حفظ الله donne un autre exemple des Khawarij. Ils disent également qu'ils prennent en considération la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne devenez pas, ou ne devenez pas mécréant après moi en frappant, en vous frappant les uns les autres la nuque, c'est-à-dire en vous tuant et en vous combattant les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne redevenez pas mécréant après moi. Comment devenir mécréant? Dans ce hadith, on en déduit yadribu ba'dukum riqaba ba'd, en frappant les uns les autres les nuques, en vous frappant la nuque les uns les autres. Donc ils utilisent ce hadith pour dire que celui qui tue son frère est mécréant, et que celui qui commet un meurtre devient par ce péché mécréant. Et ils apportent en plus de ce hadith
un verset où Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ يَقْتُلْ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.
Et celui qui tue un croyant volontairement, alors sa récompense sera le Jahannam éternellement. Il y restera éternellement.
Celui qui tue un croyant volontairement, il aura le feu de l'enfer éternellement.
Et on a dit que ceux qui restent éternellement en enfer sont les non-musulmans.
Donc on en déduit que celui qui tue un croyant volontairement devient mécréant.
Donc ils apportent une chose, ils attestent que celui qui tue ou que le meurtre fait plonger la personne dans la mécréance et que le tueur est mécréant, et ils apportent comme preuve un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Puis Cheikh Al-Fawzan dit: wa la yarji'una ila qawlihi ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma.
Cheikh Al-Fawzan dit: et ils ne reviennent pas à la parole où Allah Azza wa Jal dit: et lorsque deux groupes de croyants se combattent, alors fa aslihu baynahuma, réconciliez entre eux, faites la réconciliation entre ces deux groupes.
Ici Allah Azza wa Jal dit: wa in ta'ifatani min al-mu'minin,
ici deux groupes de croyants se combattent.
Donc malgré qu'ils se combattent et qu'ils se tuent les uns les autres, Allah Azza wa Jal les a appelés croyants.
Ila qawlihi ta'ala: innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum.
Puis Allah Azza wa Jal a cité comment rassembler ou comment faire comment réconcilier ces deux parties. Et à la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit: innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum.
Les croyants sont des frères, réconciliez donc entre vos frères.
Réconciliez-vous donc entre vos frères.
Après avoir cité les versets où Allah Azza wa Jal parle des deux parties, des deux groupes de musulmans qui se tuent et qui se combattent.
Donc dans ce verset, on en déduit que
le fait de tuer n'est pas une mécréance, car Allah Azza wa Jal les a appelés croyants.
يقول الشيخ حفظه الله: سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالاصطلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون.
شيخ الفوزان dit: Allah Azza wa Jal les a appelés croyants alors qu'ils se tuent, et a ordonné de réconcilier entre eux, et a fait d'eux nos frères. وهم يتقاتلون, alors qu'ils se tuent les uns les autres. فدل على أن القاتل لا يكفر.
Cela prouve que le tueur, que l'assassin, que celui qui tue en islam, ne devient pas mécréant.
Cela fait partie des grands péchés, certes, mais cela ne le fait pas sortir de l'islam.
فلما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه.
Et Cheikh Al-Fawzan rapporte une autre preuve et dit: lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de la loi du talion, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Sourat Al-Baqarah, le verset 178: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ.
Celui qui a été pardonné pour son frère.
Celui qui a été pardonné par qui?
Qui a été pardonné par qui? Qui est pardonné?
Le tueur.
Le tueur, il est pardonné par qui?
Le frère.
Par la famille du tué. Par la famille de la victime. Donc ici c'est l'assassin qui est pardonné par la famille de la victime.
Allah Azza wa Jal dit: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ.
Celui qui a été pardonné pour son frère.
Autrement dit, celui qui a été pardonné par la famille de son frère qui l'a tué.
Donc Allah Azza wa Jal a considéré la victime comme étant le frère de l'assassin.
Min akhihi ay al-qatil. Le Cheikh Al-Fawzan dit: de son frère, c'est-à-dire de la victime.
Faja'ala al-qatil akhan lil-qatil. Allah Azza wa Jal a fait dans ce verset, a fait de la victime le frère du tueur. فدل على أن القاتل لا يكفر. Cela prouve que le tueur n'est pas mécréant. وأنه أخ للقتيل بالإيمان. Et qui est le frère de la victime par la foi. إنما المؤمنون إخوة. Les croyants sont frères entre eux. Non. On peut dire ça. On peut dire que le meurtre c'est un kufr asrar. Et certains savants disent même que tous les grands péchés font partie du kufr asrar. Non. Car ce n'est pas un kufr qui fait sortir la personne de l'islam. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir la personne de l'islam.
فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه القرآن والسنة ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين.
وشيخ فوزان دي حفظه الله. Et les gens de l'égarement prennent donc une partie des preuves qui sont les ambiguïtés ou des preuves ambiguës dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallam, et délaisse les autres parties de preuves présentes également dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallam, qui viennent expliquer et montrer le sens de ces choses ambiguës. Et ces personnes font ceci dans le but de créer la zizanie, dans le but de créer la turpitude sur terre, et dans le but de dévier les gens de la vérité et de les faire douter de la religion. Car le but des Khawarij, lorsqu'ils disent cela, quel est leur but? Lorsqu'ils disent que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est un mécréant, quel est leur but? Voilà, leur but c'est que tu aies une doctrine en toi et que toute personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, quelle que soit sa désobéissance, est mécréant. Et ils vont dire, on commence par le premier qui est le gouverneur. Le gouverneur qui n'applique pas la loi d'Allah désobéit, donc c'est un mécréant.
وَالصَّوَابُ ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين ويقولون إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالسنة.
Et ils disent, ces gens égarés, nous avons pour preuve le Coran et nous avons pour preuve la Sunna.
والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث.
Cheikh Al-Fawzan dit, et la vérité c'est qu'ils n'utilisent pour preuve ni le Coran ni la Sunna. لأن هذا ليس استدلالا صحيحا. Car ce n'est pas une façon de prouver qui est véridique et valide.
بل هو قطع النصوص بعضها عن بعض.
Mais c'est plutôt couper les versets d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et isoler les uns des autres. ليس استدلالا صحيحا. Et ceci n'est pas un moyen de preuve légiféré et légitime. بل هو استدلال باطل. C'est même un moyen de preuve qui est nul et rejeté. كما قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Et ils coupent ce qu'Allah a ordonné de rassembler. Et ils divisent ce qu'Allah عز وجل a ordonné de rassembler.
فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعضه ببعض وإنما يرجع بعضه إلى بعض.
Donc, on doit réunir les preuves les unes avec les autres et on ne doit pas les contredire et faire en sorte que la parole d'Allah, ou considérer que qu'une parole d'Allah en contredit une autre, ou que la parole du prophète sallam en contredit une autre, mais il faut rassembler les différents versets et les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but que l'un explique l'autre.
ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه فما دام أن كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا.
C'est pour cela que les gens qui sont ancrés dans la science, comme on l'a informé Allah Azza wa Jal, والراسخون في العلم كيس كيل ديز يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. À la fois les versets à équivoque et à la fois les versets sans équivoque. Tant que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'expliquent les uns les autres. Ou plutôt, les versets sans équivoque expliquent ceux qui sont ambigus. Car la parole d'Allah azza wa jal, wa kalamullahi la yatanaqad, كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Car la parole d'Allah Azza wa Jal ne se contredit pas. Les paroles d'Allah Azza wa Jal ne se contredisent pas entre elles. Comme on a informé Allah subhanahu wa ta'ala, أفلا يتدبرون القرآن, ne réfléchissent-ils pas, ne médite-t-il pas dans le Coran, et s'il provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses incohérences. Si ce livre, le Coran, ne provenait pas d'Allah Azza wa Jal, on y aurait trouvé de nombreuses incohérences et de nombreuses contradictions. Fakalamullah laysa fi ikhtilaf. La parole d'Allah, il n'y a pas de contradiction dedans, il n'y a pas de divergence. ولكن يحتاج إلى إيمان. Mais la parole d'Allah Azza wa Jal a besoin de foi. وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص. Et la parole d'Allah Azza wa Jal a besoin d'une science ancrée dans les différentes façons de puiser les preuves. يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم. Il a besoin de clairvoyance et d'expérience dans la science, de telle sorte que celui qui a atteint le degré de mujtahid parmi les savants en connaisse le sens. Et c'est pour cela que parmi les conditions d'un mujtahid, c'est un savant qui a atteint un degré de science qui lui permet de faire des efforts sur des sujets qui n'ont pas de réponse directe ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et un savant, comme l'a dit Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ce sont ceux qui tamponnent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui attestent et qui cachettent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un savant fait un ijtihad et donne une réponse à une question nouvelle, il atteste que c'est la religion d'Allah et que c'est ainsi qu'il doit être adoré. Donc c'est une responsabilité qui est grande. C'est pour cela que parmi les conditions du mujtahid, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est qu'il soit savant dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il connaisse l'abrogé et l'abrogeant, qu'il connaisse les preuves qui sont mutlaq et muqayyad, qui sont globales et d'autres spécifiques, qui sont générales et précises, qui sont à équivoque ou sans équivoque. Il doit connaître tout ceci. Sinon, il ne lui est pas permis de faire des efforts ni de parler dans les sujets de science jusqu'à ce qu'il ait la connaissance de tout ceci, et tout ceci pour ne pas tomber dans l'égarement des gens qui ont une déviance et qui ne prennent qu'une partie des versets et des hadiths et en délaissent les autres. Un savant qui ne connaît pas les versets ambigus et les versets sans équivoque, est-ce qu'il peut donner une fatwa? Non. Car il peut se baser sur un verset qui est ambigu sans que lui ne le sache. et qu'il y a un autre verset qui lui est sans équivoque, qui est clair, qui vient expliquer ce verset ambigu. Et faire une fatwa en se basant sur un verset ou sur un hadith qui est ambigu revient à imiter les gens de l'égarement qui utilisent une partie des versets ou une partie des hadiths dans le but d'égarer les gens. Même si ce savant ne dit pas ça dans le but d'égarer les gens, mais le fait est qu'il a fait un effort alors qu'il n'en est pas capable et qu'il ne fait pas partie des gens qui sont alloués pour ce genre de choses. وقال في ذمي يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله وقال في ذمي مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومن يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم. Donc l'imam ibn Qudama al-Maqdisi dit, et Allah Azzawajal a dit, en réprimandant ceux qui interprètent ou ceux qui utilisent l'interprétation par des versets ambigus, Allah Azzawajal a dit, en les réprimandant, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ, et ceux qui ont une déviance dans leur cœur, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ils suivent ce qui est ambigu dans ce livre, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, en voulant la turpitude, وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, et en voulant l'interpréter, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et seul Allah Azza wa Jalla en connaît l'interprétation. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. Donc Allah Azza wa Jalla a fait le fait de vouloir interpréter un signe de déviance et de détournement de la vérité. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. Et Allah Azza wa Jalla a associé au fait de vouloir la turpitude. Allah Azza wa Jalla a rassemblé le fait de vouloir l'interprétation et vouloir la fitna, c'est-à-dire al-fasad, yani la turpitude sur terre. Alors Azza wa Jalla a fait de ces deux choses, a fait pour celui qui veut interpréter, il l'a mis à la même échelle que celui qui veut la turpitude sur terre. C'est clair ou pas ? Celui qui veut interpréter le Coran en utilisant les versets ambigus, d'accord, est comparable à celui qui veut faire le mal sur terre. فَجَعَلَ ابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ عَلَامَةً عَلَى الزَّيْرِ. Allah Azza wa Jalla a fait du fait de suivre les ambiguïtés du Coran comme un signe de détournement et il l'a mis dans le même piédestal que celui qui veut le mal sur terre, que celui qui veut faire le mal sur terre. De vouloir interpréter un verset ambigu sans le soumettre au verset clair et sans équivoque est un signe de détournement et d'égarement. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ, comme Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui ont dans leur cœur une déviance, أي انحراف, c'est-à-dire un détournement. وَالزَيْرُ مَعْنَاهُ الْإِنْحِرَافُ عَنِ الْحَقِّ, et الزَيْر, le détournement, signifie dévier de la vérité. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ils suivent ce qui est ambigu dans le Coran, يَأْخُدُونَ بِطَرَفٍ فَقَطْ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَيَتْرُكُونَ الطَّرَفَ الْآخَرِ, ils prennent une partie uniquement des preuves et délaissent les autres. اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, اِبْتِغَاءَ مَعْرِفَةِ تَأْوِيلِهِ أي تَفْسِيرِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أو ما يقول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني. C'est-à-dire qu'ils veulent connaître l'interprétation, c'est-à-dire les deux sens d'interprétation connus, à savoir le premier qui est de connaître l'explication et le sens d'une chose, et la seconde qui est ce qu'une chose devient dans le futur. Mais il a utilisé pour cela des versets qui sont ambigus. وَكِلَهُمَا بَاطِلْ سَوَاءٌ إِبْتَغَوُ التَّفْسِيرَ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ الْمَعْنَى فَإِنَّ الْمَعْنَى لَا يَتَّضِحُ إِلَّا بِرَدِّهِ إِلَى الْمُحْكَمِ أَوْ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ ابْتِغَاءُ مَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَآلِ الَّذِي يَؤُولُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَ هَذَا. Et dans les deux cas, ils sont dans le faux. Pourquoi ? Si on prend le premier cas où ils veulent connaître l'explication et le sens d'une chose, comme le dit Cheikh Fawzan, ils ne pourront comprendre que si ils soumettent ce verset aux versets qui sont clairs. Donc en se basant sur les versets ambigus pour connaître le sens, cela est une erreur d'office. Et même s'ils veulent connaître le second sens du ta'wil, qui est de connaître ce qu'une chose va devenir dans le futur, ils ne pourront pas, car c'est une chose qui est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ou pas? C'est clair? الأول يعلمه الله والراسخون في العلم. La première explication, le sens d'une chose, le sens d'un mot est connu d'Allah, mais également est connu de ceux qui sont ancrés dans la science. أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل زيغ ما داموا يأخذون ببعض النصوص. Donc comme et le deuxième sens n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan dit, et qu'ils veuillent le premier sens ou le second, ils sont dans les deux cas égarés, car ils ne prennent qu'une partie des preuves et pas l'ensemble. Ils prennent, comme le dit Cheikh Fawzan, ce qui leur est profitable et délaissent ce qui ne leur est pas profitable. Ils prennent également ce qui contredit leur passion. Ce sont donc des gens égarés. Ils veulent éprouver les gens et les dévier. Et dévier les gens de leur religion. Et ils veulent qu'un doute soit présent dans la parole d'Allah. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم يستدلون بالقرآن. Et également, ils veulent semer le doute dans les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم en disant qu'ils ont pour preuve des Corans, qu'ils ont pour preuve le Coran أو السنة ou bien la سنة بأن أخذوا طرفا منها وتركوا الطرف الآخر, en prenant une partie et en délaissant une autre. وهذا ليس استدلالا بكلام الله وإنما هو تمويه للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم. Je sais pas ce que vous avez إذا رأيتهم. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc je vais enlever le ha. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Et Cheikh Fawzan rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez ceux qui recherchent les ambiguïtés, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, ce sont eux qu'Allah a nommés, prenez garde contre eux. فَحْذَرُوهُمْ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ, comme cela est rapporté dans le Sahih de Bukhari et de Muslim. Aïe الذين سمى الله في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. C'est-à-dire ceux qu'Allah Azza wa Jalla a nommés dans le Coran dans ce verset, et ceux qui ont une déviation dans leur cœur et qui suivent les ambiguïtés en voulant le mal et en voulant l'interprétation. فاحذروهم, prenez garde contre eux, لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل, prenez garde à ne pas accepter leurs paroles et à ne pas être influencé par leurs paroles, car tout ceci est faux. Et dans le hadith de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a d'abord commencé par citer le verset, a lu la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Ali Imran, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهِ, lorsque vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, ce sont eux qu'Allah a nommés, prenez garde.
حَذَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُتَلَاعِمُونَ الْمُتَعَالِمُونَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَةً مِنَ الْعِلْمِ تُؤَهِّلُهُمْ لِلْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ أَوْ أَنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ لَكِنْ يُرِيدُونَ تَضْلِيلَ النَّاسِ وَصَرْفِهِمْ عَنِ الْحَقِّ.
Cheikh Fawzan dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette catégorie de personnes qui sont des pseudo-savants qui n'ont pas atteint le degré de la science qui leur permet de parler dans ce domaine, ou bien ils ont de la science, mais le but de cette science est de détourner les gens et de les égarer de la vérité.
Fa'ula bayna amrayn, Michel Fawzan dit, ceci, ces personnes-là, sont entre deux situations.
Soit ce sont des ignorants qui sont entrés dans ce qu'ils ne connaissent pas,
ou
bien ce sont des personnes qui sont égarés, qui égarent et qui veulent contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et créer une contradiction entre eux. Ce sont donc des personnes égarées dans tous les cas, qu'Allah nous en préserve, et que leur but soit la déviance ou autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
فَلَا يَسُورُ لِيَحَدٍ يَتَكَلَّمَ فِي كَلَمِ اللَّهِ وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لديه ملكة علمية تؤهله لأن يكون من الراسخين في العلم.
Il est donc pas permis de parler, il est donc permis à personne de parler dans les paroles d'Allah, de parler sur la parole d'Allah ou sur les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, sauf s'il a un bagage de science qui lui permet d'être ou de faire partie de ceux qui sont ancrés dans cette science.
الَّذِينَ رَسَخَتْ عُلُومُهُمْ وَالرُّسُخُ مَعْنَاهُ الثُّبُوتُ,
ceux dont leur science est ancrée, et الرسوخ signifie الثُّبُوتُ, c'est-à-dire quelque chose de ferme.
أَيْ رَسَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ فِي الْعِلْمِ,
c'est-à-dire que leurs pieds et leurs cœurs sont fermes dans la science, بالعلم النافع, dans la science bénéfique bien sûr.
هؤلاء هم الذين لهم الحق في الكلام,
ce sont eux qui ont le droit à la parole.
وهذا ينطبق على علماء السلف,
et ceci s'applique aux savants des salafs.
وعلى من تبعهم واقتفى اثارهم,
et de tous ceux qui les ont suivis et qui ont suivi leurs traces parmi les savants par la suite.
Ce sont eux ceux qui sont ancrés dans la science.
On actafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.